Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le débrief d'Irlande-France. C'était moins brillant, beaucoup moins brillant que la victoire face aux Pays-Bas, mais ça fait victoire quand même, hein. 1-0 à Dublin. Beaucoup de choses à raconter, Maxime, est-ce que tu as passé une bonne soirée ?
J'ai passé une soirée, voilà, mais c'était moins brillant sur le fond, mais on a deux gestes dont on se souviendra sûrement plus longtemps. Ces deux gestes, c'est évidemment le but de Benjamin Pavard, cette belle frappe du droit sous la barre et l'arrêt de Mike Maignan en fin de match. Mais finalement, les Bleus ont fait l'essentiel. Ça fait 6 points en 2 matchs contre les deux adversaires les plus durs sur le papier. La prochaine fois, c'est à Gibraltar qui ce soir a concédé 51 tirs face aux Pays-Bas. Oui, 51 tirs, donc c'est plus d'un tir toutes les 2 minutes. Et la Grèce au Stade de France, donc quasiment en juin, l'équipe de France serait quasiment à l'Euro déjà, donc... Bon, ça reste quand même un bon rassemblement, on va dire.
On va débriefer cette rencontre autour de toi. 3 points, pardon, on débutera en se demandant tout simplement qui est l'homme du match. T'en as déjà parlé, Maxime. Mike Maignan ou Benjamin Pavard? La parade de Maignan ou le but de Pavard? On peut se poser en creux qu'est-ce qui a été le plus important pour les Bleus ce soir. Ensuite, on parlera d'Olivier Giroud qui a peut-être perdu sa place de titulaire au cours de ce rassemblement qui a été... assez transparent ce soir, alors que Colomoigny avait été brillant vendredi. Et on terminera en débriefant les notes et on parlera, quelque chose me dit Maxime, d'un certain Kylian Mbappé. On démarre, Maxime?
On démarre. Une victoire 1-0 en Irlande, un but de Benjamin Pavard, une frappe splendide sous la barre. On était bien content de l'avoir ce soir, Pavard, parce que sans ça, on avait aussi l'impression que l'équipe de France ne marquerait pas. On a même eu l'impression que l'équipe de France pourrait encaisser un but en toute fin de match. Coup de tête et là, une parade exceptionnelle, je pèse mes mots, de Mike Maignan qui est allé chercher le ballon en lucarne. Mike Maignan, ça fait 2 matchs qu'il est numéro 1 des Bleus. 2 matchs qu'à la fin du match, justement, ses coéquipiers viennent le congratuler. Alors, vendredi, c'était pour du beurre parce que c'était un arrêt sur pénalty. C'était très symbolique. Là, ça rapporte 2 points aux Bleus. Et Benjamin Pavard, à la fin de la rencontre, a dit que pour lui, l'homme du match, c'était pas lui, c'était Mike Maignan. Martin, est-ce que tu es d'accord avec Benjamin Pavard?
Oui, je suis d'accord avec Benjamin Pavard parce que finalement, Mike Maignan, il n'a pas eu grand-chose à faire, mais il a tout bien fait. Un petit jaillissement dans les pieds, il couvre bien son poteau, la tête de Koundé et il termine sur... un chef-d'œuvre, hein. Sur un chef-d'œuvre, sur un arrêt, tu l'as dit, hein, dont on se rappellera encore pendant très 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 longtemps. Alors que Benjamin Pavard, je ne lui retire pas évidemment le mérite de ce but qui est capital et qui sera peut-être d'ailleurs capital dans la qualification à l'Euro, mais son match est beaucoup moins complet, beaucoup moins dense. Il a fait une première période très moyenne, il a été très timide offensivement. Mais on peut, voilà, il y a plein de circonstances atténuantes, hein. Songez que quand même Pavard, il avait été mis au frigo pendant la Coupe du Monde, qu'on ne savait même pas s'il allait revenir dans cette équipe de France. Là, on lui donne sa chance titulaire, c'est pas forcément facile parce qu'il a tant de choses à démontrer, qu'il avait un peu tout le poids du monde sur ses épaules, et cette frappe qui évidemment le libère. Mais je trouve que dans la globalité de la performance du soir, je mettrais celle de Maignan un peu au-dessus et donc je mettrais Maignan homme du match.
Ouais, Benjamin Pavard, on l'a senti vraiment dedans, surtout en première période où il n'osait pas toujours aller dans son couloir. Où, alors il n'y avait pas que des bons ballons pour lui, il faut l'avouer.
Oui, c'est vrai.
Mais il y a eu des moments où on sentait qu'il n'y allait pas vraiment, il n'allait pas vraiment au combat. Il était toujours sur la retenue et on avait l'impression, encore une fois, d'un joueur qui doute. Et là, c'est même pas tant le poste, parce que ce poste-là d'arrière droit, qui n'est pas de piston comme il l'a fait, notamment à 3 derrière, où là il était complètement perdu. Ce poste d'arrière droit, au fond, il le connaît quand même. Il n'a pas toujours fait des très grands matchs à cette position-là, mais quand même, là, on sentait qu'il y avait un poids, et en plus, ça rejaillit un peu physiquement sur lui. Donc il y avait ce doute-là, et puis il y a eu ce ballon qu'il est allé intercepter à l'entrée de la surface irlandaise, et cette frappe, ça, il sait très bien le faire. Frappe sous la barre, magnifique. La deuxième fois qu'il marque en dehors des 20 mètres, enfin des 18 mètres 50, puisqu'il y avait évidemment ce but face à l'Argentine. Donc c'est ça qui a tout changé. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Maignan est l'homme du match. Parce que de toute façon, s'il n'y a pas le but de Pavard, au pire, ça fait 0-0. Mais s'il y a 0-0 et qu'il n'y a pas l'arrêt de Maignan, ça fait défaite des Bleus. Et là, ça n'aurait pas été la même analyse. Maignan, comme tu l'as dit, il a été là tout le temps. Ce n'est pas la soirée. Il a été le plus occupé. Mais n'empêche que le geste est juste à chaque fois. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a les relances courte de Maignan, mais il y a aussi les relances parfois, on dégage, à bon escient, donc il est vraiment très solide. La transition avec Lloris, elle est quasiment indolore.
C'est ça qui est incroyable.
C'est incroyable, il faut rappeler quand même 145 sélections, et puis évidemment, cette parade, il va la chercher, mais vraiment dans la lucarne. Je ne sais pas combien de gardiens dans le monde vont la chercher, celle-là, mais Maignan l'a fait, et on est plutôt content puisqu'il est international français.
Ouais, ce qui est fou, c'est que tu dois quand même succéder à l'un des deux plus grands gardiens de l'histoire des Bleus. Il le fait avec une facilité, avec une décontraction, avec un aplomb, avec une autorité aussi, qui font que quand même tu te dis ce gars-là, il est peut-être fait d'un bois un peu spécial. Faut se souvenir de la succession de Barthez qui s'était un peu déroulée quand même dans le chaos. On avait parlé de Mandanda, Coupé, enfin c'était un peu compliqué. Ils ont tous eu un peu de mal. Lui, il arrive, bim. Il met tout le monde d'accord en 180 minutes. Très franchement, je ne m'attendais pas à ça, même si voilà, il est très bon au Milan AC, il n'y a pas vraiment de question sur son talent. Mais enfin, le faire avec un tel aplomb, on sait que le maillot de l'équipe de France peut être très lourd, et notamment dans un poste aussi exposé que de celui de gardien de but. Et avec lui, ça paraît d'une facilité déconcertante. Donc franchement, assez incroyable ces deux matchs de Mike Maignan.
Ouais, c'est assez fascinant. En fait, on le voit, on l'avait pas beaucoup vu avant parce qu'il avait 5 sélections, mais on a l'impression qu'il est non pas là depuis toujours, mais il agit comme s'il était là depuis toujours finalement. C'est-à-dire qu'il est derrière, il rassure ses défenseurs. Il y a vraiment, vraiment un gros, une chance exceptionnelle de l'avoir à ce moment-là, parce que comme tu l'as dit, il aurait pu être un peu dans le doute, que ça se passe moins bien. Là, il fait 2 clean sheets pour ses 2 premiers matchs en tant que titulaire en équipe de France. Gibraltar, on peut espérer un troisième, et peut-être contre la Grèce. Donc voilà, évidemment, il y aura peut-être un but sur les deux matchs, mais ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, ça pouvait pas mieux démarrer pour lui, et c'est pour ça que voilà, pour moi, c'est l'homme du match, parce que la prestation de Pavard, elle est vraiment très rehaussée par le but. Oui. Voilà. Et on retiendra aussi le symbole évidemment de la fin du match, quand il est sorti, puisqu'il est sorti avant la fin, remplacé par Koundé. Didier Deschamps, on s'attendait, on voulait voir ce qui allait se passer. Didier Deschamps lui a longuement parlé à l'oreille. Et Deschamps a expliqué qu'il lui avait dit « Bah oui, je sais qu'il y a des moments plus durs que les autres. » Et il y a une relation un peu spéciale entre les deux finalement, parce que Deschamps manie un peu la carotte et le bâton avec lui. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, bah, je pense qu'il peut être dur mais juste. Mais quand ça va mieux… Et il le reconnaît aussi, donc c'est un management qui est très, on va dire, très loyal vis-à-vis de lui. Et je pense que c'est important pour avancer avec un joueur comme ça.
Après, est-ce que ça change quelque chose dans le statut de Benjamin Pavard en équipe de France? Je pense que Koundé reste devant, mais de toute façon, il n'y a personne qui s'impose dans ce couloir droit. Donc voilà, c'est un coup l'un, un coup l'autre. Là, c'était Pavard aujourd'hui, ça a bien marché parce qu'il gagne ses galons de titulaire au poste d'arrière droit. Voilà, faut pas aller trop vite, je pense.
Ouais, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que il y avait quand même une part de risque dans ce match-là.
Ah bah oui.
Il s'est pas grillé, loin de là, donc il a gagné un peu de crédit. On a toujours l'impression qu'il est souvent sur le fil, Pavard. Il y a toujours quelque chose qui le raccroche. Bah là, en l'occurrence, il a réussi sa soirée avec ce but dont on se souviendra aussi un certain temps.
Alors il y a un autre enseignement peut-être à tirer de ce double rendez-vous international, c'est le statut d'Olivier Giroud, dont on pouvait penser qu'il était tout de même le titulaire en pointe après une très très bonne Coupe du Monde. Colomoigny a démarré face aux Pays-Bas, il a été très très bon. Ce soir, Olivier Giroud était titulaire lors du second match, ce qui dit tout le temps quelque chose quand même dans la hiérarchie, dans l'esprit de Didier Deschamps. Hein. Celui qui ne démarre pas le premier mais qui démarre le second, généralement, c'est le remplaçant dans l'esprit de Didier Deschamps. Et en plus, Olivier Giroud, la prestation du soir, elle n'a pas franchement plaidé en sa faveur. Il a été plutôt transparent, coupé de ses attaquants. On sait qu'il a besoin des autres pour exister, Olivier Giroud, ce qui est peut-être moins le cas de Randal Kolo Muani, qui lui peut faire des choses tout seul. Et dans un match qui pourtant semblait taillé pour ses qualités, et ben Giroud s'est un peu, alors effondré le mot est fort, mais il était effacé ce soir. Est-ce que Maxime, pour toi, il a perdu ses galons de titulaire en équipe de France lors de ce double rendez-vous?
C'est sûr que ça n'a pas aidé parce qu'il n'a pas existé finalement, Giroud. Didier Deschamps expliquait vendredi qu'il allait constituer son équipe en fonction des états de forme de chacun, mais on avait déjà un petit doute sur le fait que Giroud pourrait jouer, parce que comme tu l'as dit, c'est le deuxième match, et que finalement, l'adversaire ressemblait à ce qu'il faut pour un Olivier Giroud. L'Irlande, c'est plus l'Irlande d'avant, kick and rush avec des gros qui mettent des coups, mais n'empêche qu'il y a quand même un combat, il y a toujours quelque chose de physique. Et on l'a vu d'ailleurs, quand l'équipe de France avait le ballon, notamment en première période, des situations de centre, il y en a eu un sacré paquet, mais le problème, c'est que Giroud était bien là dans l'axe, mais Giroud n'a pas pris un ballon, en fait, voilà. Alors qu'on l'attendait là-dessus, on ne peut même pas dire que derrière, il l'a aidé, parce qu'il n'y a pas eu non plus besoin exceptionnellement d'aller aider dans l'autre surface de réparation. Donc oui, c'est un match raté par Olivier Giroud, qui avait une occasion de nous refaire le coup habituel du « Ah bah oui, bah, ils ont gagné 1-0, évidemment, qui a marqué ?» C'est Giroud, parce que c'est toujours Giroud, quand on l'attend un peu moins, qui sort les bleus d'un mauvais pas. Je pense que oui, Gibraltar va peut-être se trouver aussi dans la situation où une équipe qui est sur son but beaucoup plus que les Irlandais, donc potentiellement besoin d'un joueur de tête, mais je pense que ce sera plus un joueur comme Kolo Muani, parce que c'est très faible en face, et que Kolo Muani sur le rassemblement est bien meilleur. Il est moins en vue face à l'Irlande sur le côté droit, mais il a quand même toujours quelque chose, il apporte quelque chose, alors que Giroud a été plus que neutre sur cette soirée.
Plus que Giroud qui perd sa place de titulaire, je pense que c'est Randal Kolo Muani qui a gagné la sienne, je pense, sur ce double rendez-vous. Alors même qu'il n'a pas marqué. Il n'a pas joué 180 minutes, mais il a quand même joué un bon paquet de temps. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que, alors face aux Pays-Bas, Kolo Muani, il est tout de même décisif à sa façon, puisqu'il est impliqué sur les 3 des 4 premiers buts, enfin 3 des 4 buts de l'équipe de France. Encore une fois, en première période, ce lundi, c'est sans doute, même sur l'intégralité du match, c'est l'attaquant le plus remuant. Il se passe toujours quelque chose quand le ballon arrive dans sa zone. Et il est vif, il est insaisissable, on sent qu'il est en pleine confiance. Et ça va être très dur de le sortir du 11. S'il reste, alors, ce sont deux hommes, surtout Kolo Muani, il va être quand même très dépendant de la forme affichée en club, parce qu'en équipe de France, son expérience est encore assez fine, donc évidemment il ne faut pas qu'il s'écroule du côté de Francfort, mais a priori il n'y a pas de raison, il fait une saison exceptionnelle. Mais s'il continue comme ça, je vois mal Didier Deschamps le sortir du 11, surtout qu'il a été adoubé par Kylian Mbappé, qui lui a tressé les louanges en conférence de presse. On sent que ces deux mecs là ils s'entendent très 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 bien, donc c'est aussi quand même un des enseignements de ce rendez-vous international. C'est que la France a sans doute trouvé son nouvel avant-centre.
Ouais, il a un profil aussi. Alors évidemment, il n'a pas le même profil que Giroud, mais comme Giroud, il facilite le travail des autres aussi. Et notamment sur le match face aux Pays-Bas, où on a vu qu'il avait cette faculté à servir d'un pivot. Alors, ce n'est pas le même pivot que Giroud. Giroud, qui va être un pivot classique, lui, il va être là et c'est plus autour de lui que ça tourne. Et même lui, par ses appels, par ses mouvements, par ses dribbles, peut ouvrir des brèches à ses deux coéquipiers de devant, qui étaient Coman, pour le coup, qu'on avait moins vu, et surtout Kylian Mbappé. Comme tu l'as dit, l'adoubement de Kylian Mbappé, ça pèse toujours un petit peu. Évidemment, quand on nomme un joueur comme ça capitaine, ou qu'un joueur comme lui a un poids, et qu'il dit « moi j'aime bien jouer avec un tel », il l'avait dit avec Giroud, je pense que ça a aidé au mois de septembre dernier à ce que Giroud soit à la Coupe du Monde. Là, je pense qu'avec Randal Kolo Muani, c'est le cas. Et puis voilà, Randal Kolo Muani est en pleine bourre. C'est un joueur qui est en train de prendre une dimension qui est complètement inattendue. C'est que sa troisième saison professionnelle, c'est un joueur qui jouait à Nantes encore l'année dernière, dont on voyait qu'il y avait quelque chose. Il passe à Francfort, l'étage au-dessus, il réussit. On peut s'attendre à ce que l'été prochain, il y ait possiblement un autre étage. Donc voilà, il incarne vraiment l'avenir de cette équipe de France. Et oui, pour le coup, si on se posait la question de l'après-Benzema, de l'après-Giroud, Kolo Muani l'incarne plutôt bien.
Après, la chance de Giroud, c'est peut-être aussi le désert quand même sur le côté droit. Alors, au niveau du latéral, mais même au niveau finalement de l'ailier où Dembélé, si on fait le bilan de sa Coupe du Monde, c'est moyen plus, c'est pas extraordinaire. Coman, il a beaucoup d'occasions de s'installer sur ce côté droit, mais il ne les saisit pas tout le temps. Donc, il y a des vrais purs ailiers qui jouent en plus au FC Barcelone et au Bayern Munich, donc c'est pas n'importe qui. Ce sont quand même des joueurs qui, parce qu'aussi leur corps, ils sont souvent blessés, ils ont quelques cicatrices qui ont du mal à se refermer tout de même. Peut-être que ça peut être la chance de Giroud si Kolo Muani s'installe sur le côté droit. Au centre, il faut bien quelqu'un. Et donc, ça sera peut-être la chance de Giroud si Coman et Dembélé ne, ne saisissent pas leur chance.
Mais ce côté droit, finalement, c'est un peu un côté droit maudit en Ile-de-France. Aussi bien derrière que devant.
C'est vrai.
Et le dernier,
mais depuis des années, années.
Le dernier à avoir été
des taux 20, des...
très bon à droite, c'est Mbappé pour un coup de 2018.
Ouais, c'est vrai.
Alors c'est peut-être plus lié à Mbappé qu'au couloir, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un problème aussi bien défensivement, parce qu'on le répète, Pavard marque un but, Pavard ne fait pas un immense match, et Pavard, aujourd'hui, si vous avez une solution plus fiable, vous iriez dessus sans hésiter. Deschamps ne l'a pas, et c'est pareil côté droit, tu l'as dit, Dembélé fait une coupe du monde que je qualifierais d'utile. C'est-à-dire qu'il était là pour aider à bloquer, parce que justement, comme il y avait une faiblesse derrière, il fallait un joueur qui soit un peu plus dans l'aide. Et il perdait évidemment offensivement ce qu'il faisait défensivement. Puis Coman, voilà, comme tu l'as dit, on lui donne la main, il ne saisit pas la chance. Donc c'est vrai qu'il y a toujours un gros chantier sur le côté droit.
Allez, on va terminer cette émission avec une petite séquence qu'on aime bien, c'est le débrief des notes d'Eurosport. Alors, on va peut-être les dire, les notes, comme ça, pour ceux qui... Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ne vont pas sur Eurosport, le site, l'application? Est-ce que ça existe encore, Maxime?
Je ne sais pas.
Franchement, ce serait fou. Je ne comprendrais pas.
Quand je vois nos audiences, pas beaucoup, j'ai l'impression.
Voilà, exactement. Alors, je vais vous livrer donc les 11 notes de l'équipe de France. Maignan, 7. Pavard, 6,5. Konaté, 5. Upamecano, 6. Théo Hernandez, 4,5. Camavinga, 6,5. Griezmann, 5. Rabiot, 4. Colomboigny, 5. Mbappé, 4,5. Et Giroud, 4. Je te propose, Maxime, de s'arrêter peut-être sur la note de Kylian Mbappé, qui avait été excellent face aux Pays-Bas. Je voulais lui mettre 4. Tu lui as mis 4,5. Et comme c'est toi le chef, c'est toi qui as le dernier. Non, mais c'est toi qui as le dernier mot. Comment finale de Coupe du Monde, je voulais lui mettre 9,5. T'as voulu lui mettre 10, on lui a mis 10. Voilà.
Non, tu voulais lui mettre 9, non, en finale.
Non, je voulais lui mettre 9,5, Maxime. Non,
moi, j'assume le 10.
Voilà, je récupère l'histoire.
D'ailleurs, allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue.
Voilà, exactement. Alors, entre 4 et 4,5, l'écart, il n'est pas immense. Moi, je trouve que Kylian Mbappé a été déjà neutre. Il n'a pas été aidé, effectivement, par Théo Hernandez, qui a été très brouillon, et même par Rabiot. Donc, tout ce côté gauche était vraiment dans un sale jour, dans une très mauvaise soirée. Et Kylian Mbappé n'a pas su rehausser ça. Il a une vague occasion en fin de match sur une ouverture de Camavinga qui foire un peu, mais c'est un peu compliqué. Un Kylian Mbappé qui n'a pas d'occasion en match de l'équipe de France, c'est quand même très très rare. Et il avait fait des matchs comme ça en Coupe du Monde, mais il s'en sortait toujours en fin de match avec un doublé, notamment je pense à son match face à la Pologne. Ouais. Ce soir, ça n'a pas été le cas et c'est pour ça que j'avais décidé de lui mettre 4.
Alors quand on fait les notes, c'est évidemment un critère numérique. Mais il y a aussi un critère comparatif, c'est-à-dire que vous allez à la fin regarder l'ensemble de vos notes et vous dire, lui, je lui ai mis ça comme lui.
Tu notes par rapport aux autres.
Je juge qu'il a fait mieux. Alors, dans la discussion qu'on a eue avec Martin, moi, je juge que Mbappé est un chouïa meilleur.
C'était pas une discussion, tu as imposé.
Qu'Olivier Giroud. Non. Qu'Olivier Giroud. Et je m'explique pourquoi. Parce que, comme tu l'as dit, en effet, offensivement, il n'y a pas grand-chose. Mais finalement, c'est peut-être une facette aussi du Mbappé qui a le brassard. On va nous ressortir qu'il n'a pas changé. Mais je l'ai trouvé quand même, finalement, ce qu'il ne réussissait pas devant, il s'impliquait un peu plus à ce qu'il allait faire, un peu plus en retrait. Et on l'a vu dans une situation presque parfois organisatrice. Alors évidemment, ce n'est pas le but de Mbappé. Et 4,5, ce n'est pas une bonne note. Hein.
Non.
C'est juste après mieux.
J'ai compris pourquoi tu lui as mis 4,5 et pas 4, parce qu'il a laissé le coup franc à Griezmann.
Mais n'empêche, non, ce que j'ai beaucoup aimé, parce que là, vous pouvez regarder des matchs de Mbappé. Souvenez-vous d'une action en deuxième mi-temps. Théo Hernandez prend le couloir. Il est battu. Un Irlandais relance. Et là, il va faire l'effort. Il a couru 30 mètres en arrière pour aller couper la contre-attaque. Alors, ça va vous faire rire parce que c'est symbolique, oui, mais sauf que normalement, il ne le fait pas. Et je pense qu'on aura beau toujours dire ce qu'on veut, qu'il nous dira, et Deschamps aussi, le brassard, ça ne change rien. Et moi, je suis persuadé que ça joue là-dessus. Et ce n'est pas là-dessus qu'il fait le demi-point en plus. Simplement, je trouve que le match de Giroud est vraiment trop effacé,
très neutre,
trop raté pour lui mettre la même note que Mbappé, qui a un tout petit peu plus pesé. Mais encore une fois, 4,5, c'est pas un bon match, hein, on va pas se mentir.
Un autre joueur, Maxime, qui a raté son match dans les grandes largeurs, qu'on peut débriefer, c'est Adrien Rabiot, à qui on a décidé de mettre 4. Et alors, pour le coup, c'est assez inexplicable, parce que complètement à l'envers, dès le début du match, il a la plus mauvaise note avec Olivier Giroud. Un match complètement à l'envers, qu'on l'a jamais senti. À l'image sur l'action du but, où il fait une passe dans l'axe complètement molle et complètement mal sentie. Alors Pavard s'en sort par un tour de magie, mais bon, voilà, il perd encore un ballon. C'est un Rabiot qu'on n'avait plus vu en équipe de France depuis un paquet de temps. Il avait été très consistant, très dense en Coupe du Monde. Pareil face aux Pays-Bas. Ce soir, c'est la soirée sans. Quoi.
Ouais, c'est la soirée sans, la soirée oubliée. Voilà, bah, il a fait son mauvais match. Il ne nous avait plus habitués à ça depuis un certain temps, puisqu'en Coupe du Monde, je crois qu'il avait joué 5 matchs et que pour le coup, ça s'était quand même plutôt bien passé. Et on avait découvert un autre Rabiot qui avait une forme de leadership technique et qui allait aussi plus dans le combat. Voilà, pas le Rabiot qu'on avait vu en équipe de France au tout début. Bon, bah, ça s'est mal passé face à l'Irlande, voilà. Mais je trouve que c'est, de toute façon, c'est pas un très grand rassemblement de milieu de terrain, pour le coup, si on fait le bilan.
Alors, je voulais débriefer une dernière note, justement, c'est celle d'Eduardo Camavinga, qui, pour le coup, était titulaire un peu à la surprise générale, parce qu'on s'attendait à voir Aurélien Tchouaméni, et qui, au milieu de Griezmann, à qui on a mis 5, et de Rabiot, donc, auquel on a mis 4, lui, il a obtenu 6,5, et qui, pour le coup, lui, ça faisait longtemps en équipe de France qu'on ne l'avait pas vu aussi autoritaire. Alors, hormis ces dernières minutes en finale, mais bon, il joue arrière-gauche, voilà, on est un peu plus indulgent. Là, il est à son poste de formation. Là, il est où il se doit d'être, en sentinelle. Et très franchement, moi, je l'ai trouvé à la fois propre, déjà très propre. Je l'ai trouvé intelligent et je l'ai trouvé surtout très précieux dans la récupération. Je trouve que... En fait, c'est le match qu'on attendait de lui il y a déjà 2 ans, quand il s'était un petit peu perdu, quand il avait fait une super première prestation, un super premier rassemblement, qu'après, c'était complètement perdu avec Rennes et il avait eu du mal à émerger avec le Real. Là, c'est Camavinga tel qu'on l'attend.
Ouais, tel qu'on l'attend, et s'il tombe vraiment au bon moment, ce match-là, pour lui, parce que, rappelez-vous quand même qu'il est appelé en tant que défenseur, en tant qu'arrière latéral gauche par Didier Deschamps, qui dit « j'ai pas d'autre solution aussi fiable que lui pour ce rassemblement ». Donc en gros, s'il joue, il sera arrière latéral gauche derrière Théo Hernandez. Didier Deschamps le titularise finalement au milieu de terrain à Dublin et il fait un gros match. Et là, c'est aussi un message qu'il a envoyé pour moi à Didier Deschamps, lui disant « tu vois, mon poste, c'est celui-là ». Et je serais très étonné que pour le prochain rassemblement, il soit appelé en latéral gauche, parce que là, ce serait quand même... Alors, je veux bien que la fin justifie les moyens, mais là, ce serait peut-être... Ça serait quand même, j'allais dire, un pied de nez, mais là, c'est pas possible. Voilà, tout simplement qu'il a montré que dans un moment où Aurélien Tchouaméni est moins bon, il avait été moins bon contre les Pays-Bas, mis à part la passe décisive sur Mbappé.
Puis même au Real, il est moins bon, Tchouaméni, à cause de Camavinga aussi.
Ouais, là, il montre qu'il a les épaules et qu'il est là et que il mérite de le faire jouer, donc je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a gagné sa place, mais en tout cas, je pense qu'il a gagné sa place dans la liste au milieu de terrain. Voilà. Ce qui est déjà un bon pas en avant, parce que voilà, je pense que s'il acceptait, parce que Didier Deschamps l'avait prévenu, qu'il puisse potentiellement jouer arrière latéral gauche, bon, je pense qu'il a d'autres ambitions dans sa carrière que jouer à un poste qui n'est pas le sien.
Et bah, c'était encore un débrief brillant de la part de Maxime Dupont, qui lui, peu importe les rassemblements, peu importe les matchs, il aligne les 10.
Putain, j'en ai un paquet de rassemblements.
Ouais, t'en as quelques-uns, Maxime. Et ben merci Maxime, merci Martin. À Simon derrière la caméra. Et puis on se donne rendez-vous vendredi pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Je ne sais pas si on parlera de l'équipe de France.
Je suis pas certain, pas sûr. Si se passe quelque chose entre temps.
Pas sûr, il y aura de la Ligue 1, il y aura du football européen.
Il y a un petit Lyon PSG notamment, un petit Laurent Blanc Galtier qui...
Ouais, qui te titille. Hein.
Qui me titille un peu.
Ouais, il t'excite un petit peu celui-ci. Merci à tous. Et donc rendez-vous vendredi pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Ciao, ciao.
Salut Martin.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.